à la 5e édition du congrès virtuel de FC. Je suis Marie-Annelle, votre hôtesse ce soir, et avant de commencer, je voudrais vous avertir qu'en écoutant cette conférence ou son enregistrement, vous acceptez d'être responsable de votre bien-être personnel. L'EFT est un outil à la fois simple et très puissant, dont les résultats varient naturellement d'une personne à l'autre. Les témoignages avancés lors de cette conférence ne constituent pas une garantie que vous aurez les mêmes résultats pour vous. Consultez toujours votre médecin traitant ou un spécialiste en cas de problème médical dans son domaine de compétence. La conférence de ce soir s'intitule « EFT et liberté des mémoires prénatales ». Les cellules se souviennent. Le corps a gardé la mémoire des temps vécus avant la naissance. Le scénario prénatal a un rôle fondateur dans la construction du psychisme et l'évolution de la conscience humaine. C'est la révélation spontanée vécue en 1989 par le docteur Claude Imbert et elle a ensuite répertorié dans une collection unique de milliers de vécus thérapeutiques les étapes psycho-émotionnelles de l'être dans les instants précoces de sa vie prénatale. La conscience embryonnaire décryptée, mise en mots, analysée, éclairée et de nouvelles compréhensions révélant le sens initiatique de la vie avant la naissance. Les croyances erronées prenant racine à cette période de la vie vont générer plus tard des troubles physiques et psychologiques. La thérapie prénatale, par sa connaissance vaste et subtile des vécus de l'embryon et du fœtus dans le ventre maternel, permet à chacun de nettoyer les filtres de ses croyances et de faire rayonner ses ressources essentielles. L'EFT va constituer un soutien dans cette renaissance vibratoire, puis un renforcement ponctuel. Notre conférencière est sophro-analyste et bio-énergéticienne, et c'est sa rencontre avec le travail du docteur Claude Imbert qui lui ont donné le déclic de penser prénatale devant tout symptôme ou difficulté de vie. Écouter avec le cœur et voir au-delà des apparences. Le fait d'avoir proposé cette approche à de nombreuses personnes en cabinet ces 15 dernières années lui a confirmé la nécessité de la guérison du scénario prénatal. En découvrant les trésors de l'EFT, elle en est venue naturellement à associer ce fabuleux outil à la thérapie de la vie intra-utérine. Cette synthèse qu'elle a pu faire à la lumière de toutes ses connaissances s'appelle « Reconnaissance cocon natal ». J'ai le plaisir d'accueillir Emmanuel Lorido. Bonsoir Emmanuel, ça y est, la ligne est ouverte.
Bonsoir Maria.
Merci d'être là avec nous. Et je doute que tout le monde connaisse l'importance des mémoires prénatales. Alors, est-ce que tu veux bien nous expliquer d'abord un peu de quoi s'agit-il ?
Oui. Donc, c'est vraiment les mémoires que j'ai retrouvées d'abord pour moi-même en séance avec Claude Imbert et puis que j'ai pu faire découvrir ensuite à d'autres personnes. Donc, qu'est-ce que sont ces mémoires ? Ces mémoires, en fait, c'est le scénario prénatal du bébé hein, qui se met en place pour lui dès sa création, en fait, dans sa première cellule, dans le ventre de sa maman. Ce sont les fondations de son être, hein, de ce que nous dit Claude Imbert. Et ce scénario, c'est un scénario qui est parsemé d'événements émotionnels qui sont complètement insoupçonnés de l'extérieur, pour sa maman, pour son papa, pour l'extérieur. Lui, il vit sa vie dans le ventre et donc il se construit à partir de son expérience. Et là vont se mettre en place des croyances erronées, donc de ce petit embryon dans le ventre de sa mère. Et ce petit embryon, donc lui, a sa propre perception, qui est une perception unilatérale, c'est-à-dire que il est de son côté de l'écran, en fait. Hein. De l'autre côté, on ne le voit pas. Et lui, il a une vision parcellaire, de la réalité. Donc, c'est là que commencent à se mettre en place des croyances, notamment la croyance illusoire du manque d'amour. Donc, en fait, surtout, ce qu'il faut bien comprendre dans ce scénario, c'est que c'est un scénario. C'est un scénario Et comme tout scénario, il se met en place et il est la structure d'une pièce de théâtre, d'un film. En fait, ce n'est pas la réalité telle qu'elle est en vérité. Voilà, donc on voit bien dans les revécus de naissance et avec l'EFT, quand on travaille ces mémoires, dans ce qu'on retrouve, c'est que l'âme, quand elle s'incarne, elle revêt une sorte de manteau de poussière qui la voile, qui lui voile sa vision par rapport au réel de la vie. Se mettent en place des apparences trompeuses. Moi, j'aime bien parler de manteaux, comme des manteaux à dépoussiérer, ou alors un peu un mental à dépoussiérer.
Oui, d'accord, des manteaux à un mental, oui, pourquoi pas.
Ça m'a fait rire que j'ai découvert ça.
Oui.
C'est vraiment ça, c'est vraiment ça. Mm. Et donc en fait, au moment de l'incarnation, l'âme qui arrive, elle arrive avec toute son antériorité, elle s'associe à une hérédité de la généalogie, elle s'associe à une génétique, à un ADN cellulaire, et en fait, elle pose le décor de son scénario d'arrivée dans l'illusion des apparences de la matière, des apparences de la matrice, de sa maman dans laquelle elle arrive. Et donc, une des premières illusions, c'est l'illusion de la séparation avec notre origine, d'où on vient, la source d'où l'on vient. Hein. Et en fait, c'est le sens évolutif de toutes ces mémoires qui va petit à petit se découvrir au cours de la thérapie. Ce que les personnes découvrent, en fait, c'est que on est comme un acteur, metteur en scène qui choisit les personnages de notre histoire, de l'histoire qu'on vient jouer. Et on choisit les acteurs. On est un peu comme un chef d'orchestre qui choisit les musiciens, qui guide la partition de musique de la vie. Hein. Cette vie qui a été écrite par le grand auteur-compositeur universel. Voilà. Donc c'est tout ça qui se met en place. Et que l'on comprend quand on fait ce retour en arrière pour comprendre ce qui s'est passé. En fait, on est un petit peu fait comme on est un peu constitué comme des poupées gigognes. Et depuis la plus petite, donc la première cellule, le petit embryon in utero, le fœtus, le bébé avant la naissance, le bébé à la naissance, le bébé tel qu'il est accueilli par les parents. Et puis ensuite le petit nourrisson, l'enfant, l'adolescent, l'adulte, jusqu'à aujourd'hui, toutes ces mémoires, elles sont comme ça, comme des poupées gigognes. Et à partir d'une première croyance qui se met en place in utero, eh bien on va répéter en boucle des comportements depuis la vie prénatale. Je dis bien répéter, mais si on veut. Il se trouve que si au cours de notre vie on décide de faire un travail de compréhension avec plusieurs approches, notamment avec l'EFT, ça va nous permettre de comprendre ce qui s'est passé.
Voilà. Ce qui est vraiment révélateur, ce qui est vraiment révolutionnaire dans le travail de Claude Imbert, c'est de mettre en évidence que ces croyances avant la naissance, enfin qu'il y a déjà beaucoup de croyances qui s'installent avant la naissance, ou est-ce que tu dirais que tout vient de là?
Non, ça s'installe avant la naissance. En fait, la naissance, c'est une répétition du schéma, du scénario, réellement,
qui a déjà été écrit.
À l'incarnation, ou on peut dire aussi à la conception, qui est le fruit de ce qu'ont vécu les parents avant, qui est le fruit de toute l'antériorité de l'âme, de ce avec quoi elle arrive. Hein, et puis de ce qu'elle va vivre depuis la création de sa première cellule, la rencontre de l'ovule et du spermatozoïde avec toute leur mémoire génétique, tout ce qui va se passer, et notamment si l'âme arrive, si deux âmes arrivent et si deux cellules se créent, deux ou parfois plus, eh bien si une cellule ne continue pas à évoluer, il va y avoir une première mémoire de séparation.
D'accord.
Donc en fait, la naissance n'est que la réactivation du schéma, du scénario.
D'accord.
Et c'est en fait c'est un peu comme une initiation. Hein. C'est ce qu'on a compris, c'est que c'est comme une initiation pour l'âme qui arrive. C'est comme un atterrissage subtil de l'esprit dans la matière. Moi, je parle de temps en temps d'un amérissage parce que on passe par cette vie aquatique avant d'arriver sur la terre.
Oui.
Et donc, oui. La vie. Et en fait, tout l'enjeu, c'est de voir les trésors de ressources que la difficulté de notre relation, notre première relation avec papa-maman, hein, nous fait développer. Ils ont des limites, comme tout humain, ces limites vont nous aider à développer nos valeurs, à prendre conscience de nos ressources. Hein.
D'accord.
Voilà, c'est ce qui va passer, ce qui va se mettre en place.
D'accord. Et voilà, moi je ne savais pas effectivement qu'il y avait un chef d'orchestre dans le ventre des mamans enceintes. Je découvre que le petit fœtus il fait tout ça. Et quel est le processus émotionnel qui se déroule pendant cette période-là? Comment ça se passe pour lui? Est-ce qu'on peut le savoir?
Oui, alors on peut le savoir, bien sûr, par des revécus. Alors au départ, on passait par l'état modifié de conscience de la sophroanalyse, et puis ensuite, on s'est aperçu qu'on pouvait, en restant assis, avoir accès très rapidement par une relaxation et un petit changement de conscience assez rapide à ses mémoires. On pouvait avoir cet accès. Et moi, je le fais avec l'EFT parce que ça m'est venu vraiment. Spontanément, d'aider les personnes avec ces outils, avec tous les outils que je connais en fait et que je pratique. Et donc avec l'EFT, ça nous aide à comprendre ce processus et puis à le dépasser en fait, hein, à comprendre ce qui se passe. Donc ça commence par des perceptions émotionnelles, des perceptions du bébé, d'abord au niveau sensoriel, hein, qui vont être traduits par des émotions, mais en fait c'est ce que le bébé capte du monde maternel, ce qu'il capte du psychisme de sa maman, ce qu'il capte du monde extérieur ou pas, hein, c'est-à-dire est-ce qu'il va recevoir des explications, est-ce qu'il va recevoir des caresses, le toucher, la communication, c'est là que tout se met en place en fait. Et s'il ne les reçoit pas, quelles sont les interprétations qu'il va faire? Il va faire des interprétations, donc on ne me parle pas, on ne tient pas compte de moi, je ne suis pas aimable. Voilà, des interprétations erronées dans sa conscience émotionnelle par rapport à l'amour. Hein. C'est toujours là, on revient à l'amour, c'est par rapport à son besoin de donner, de recevoir l'amour, l'amour inconditionnel, son besoin de reconnaissance aussi. Mm-hmm. Donc, à partir de ces interprétations, ben vont se mettre en place ces croyances. C'est là que ça commence. Ces croyances qui vont générer des émotions. Et ces émotions qui vont générer des décisions. Ben tiens, puisque c'est comme ça, hein. Bon, c'est complètement inconscient ce qui se passe, hein, mais
oui.
Voilà, des décisions de vie par rapport à sa propre valeur et bien sûr ben, des actions et des comportements. Donc, ce qu'on va retrouver, c'est le scénario là qui se met en place avec des stratégies pour répondre à ses besoins, hein, des stratégies de survie. Mmh. Par exemple, il va se couper de ses émotions, arrêter de ressentir, arrêter de penser, pour chercher ce dont il a besoin à tout prix. Sa seule raison de vivre, c'est l'amour, ressentir l'amour. Mmh. Vient d'un espace où l'amour est partout et il arrive dans un espace où l'amour est partout aussi, mais il faut le voir caché derrière les apparences.
Il ne le voit plus parce qu'il a une vision très limitée en fait à ce moment-là.
Exactement, exactement. Il a complètement une vision limitée dans le ventre. Il pense que voilà, en fait il a des pensées, il a des croyances et comme il voit que et que ça correspond pas forcément aux attentes de ses parents, ben il va mettre en place ce qu'on appelle des masques. Hein, et ça se passe dès la vie intra-utérine. Le masque de l'enfant parfait. Hein, je dois travailler dur, je dois me dépêcher. Le masque du sauveteur, celui qui veut faire plaisir. ou de l'enfant rebelle, me faire remarquer, être différent. En tout ça, les bébés qui gigotent dans le ventre à différents moments en fonction des émotions de la maman, on retrouve ça. On retrouve aussi les rôles qui vont se mettre en place dans le ventre, les rôles victime, bourreau, sauveteur, tout ça, ça se met en place à ce moment-là. Mmh. Comme si le bébé venait un petit peu en tant que sauveteur de ses parents. Pour il y a une symbiose émotionnelle avec sa maman et avec son papa aussi, mais plus avec la maman. Et en fait, il voudrait aider ses parents parce que ses parents sont aussi dans leur mécanisme de croyance, dans leur scénario. Mmh. Mais pas le bébé ne l'a pas forcément compris dès le départ.
Non, il prend tout ça pour argent comptant.
Ouais. Donc en fait, ce qu'on fait dans la thérapie, c'est qu'on aide le bébé, on va lui montrer le scénario de survie de ses parents. On va lui montrer qu'à l'intérieur de son parent, de sa maman ou de son papa, il y a l'enfant. C'est l'enfant ou c'est l'embryon qui est aux commandes de tout ce qu'il dit. Hein. Mmh. Que souvent, ce sont des projections des parents. Des projections, je voudrais un garçon, je voudrais une fille, je ne veux pas d'enfant, je ne veux pas de bébé, c'est trop tôt, dans la grossesse, etc.
C'est pas le moment.
C'est pas le moment, etc. Tout ça, c'est la conscience superficielle du parent, c'est son scénario, ses croyances, ses mécanismes de survie, ses projections. Mais tout ça, ça va générer un cortège d'émotions chez le bébé. C'est là que se mettent en place les premières peurs, sentiments d'impuissance, d'incompréhension, et puis toutes les émotions donc de colère, tristesse, la honte, non envie de vivre, hein, surtout s'il y a des pensées d'avortement. Hein.
Oui.
Et toutes ces croyances, elles vont se reconfirmer en boucle, crescendo, tout au long de la vie, jusqu'à ce qu'à un moment donné, l'âme, elle dise stop, on arrête, on fait quelque chose, parce que sinon, on va dans le mur.
Oui. Alors justement, juste avant d'aller dans le mur, comment peut-on se libérer de toutes ces mémoires qui sont là depuis si longtemps et qui nous limitent?
Alors, donc, comment est-ce qu'on va s'en libérer? Déjà, on va se servir des tapotements qui vont permettre donc de nous mettre en phase avec notre système énergétique. Donc, le tapping, ça va être déjà une bonne voie d'accès. Hein. Et cette voie d'accès, donc, pour aller dans cette compréhension qu'en fait, il n'y a pas que des mémoires négatives, il y a aussi des mémoires positives, des mémoires ressources. Donc là, on va mettre en valeur, en exergue toutes les ressources de l'être, hein, depuis toutes ces mémoires d'antériorité, les mémoires de la généalogie aussi. Hein, il n'y a pas que des ressources négatives dans la généalogie, il y a plein de ressources positives. Donc là, on va les mettre au premier plan de la conscience. Dans la vie intra-utérine aussi, il y a des mémoires positives. Donc, la notion clé, ça va être de prendre conscience que tous ces obstacles que le bébé vit depuis le début de sa vie, c'est un petit peu comme des aiguillons là qui vont venir le stimuler sur son chemin d'évolution. Alors que Claudine Beck, elle parle d'un tremplin initiatique sur mesure, proportionnel à nos trésors de ressources et proportionnel aussi au cheminement de l'âme, à sa mission de vie, d'incarnation, à la partition musicale qu'elle est venue jouer.
Hein. Oui.
Donc.
Mais si la partition paraît difficile, c'est parce que en réalité, nous sommes des virtuoses. On l'a juste
pas découvert.
On l'a pas encore découvert.
Exactement. Nous sommes des virtuoses, nous sommes des génies. Et ça, c'est tout le défi, c'est de le retrouver. Hein, oui. De comprendre. Et donc, en fait, ça va passer par la compréhension que la véritable intention des parents, c'était pas de nous nuire, c'était pas de nous faire du mal, c'était pas de... ils ont fait de leur mieux. Ils ont fait de leur mieux avec qui ils étaient et tout est juste dans un sens. C'est en fait, ce qu'il nous faut comprendre, c'est que Au niveau de la conscience, il y a plusieurs parties. Il y a trois parties. Il y a d'abord une double partie, la conscience superficielle, et l'autre partie, la conscience profonde. Ça, c'est les deux parties. Dans la conscience superficielle, on a toutes les pensées, les paroles, les actions, les comportements du parent. Mmh. Quand il dit « je ne veux pas d'enfant, c'est trop tôt », je veux pas des jumeaux, surtout pas des jumeaux, par exemple.
Oui.
Hein, tout ça, c'est en superficie. Mais dans la conscience profonde, on voit qu'il y a deux aspects. Il y a l'aspect de l'inconscient, qui fait se rejouer les scénarios de chacun, les scénarios du parent, parce que son parent, le parent aussi, il a ses scénarios. Là, tout se joue au niveau de l'inconscient personnel, au niveau de l'inconscient familial, au niveau de l'inconscient collectif. On a toutes ces mémoires qui sont là et qui sont en attente d'être transformées. Et puis, d'un autre côté, on a aussi la conscience cellulaire dans cette conscience profonde. Et là, dans la conscience des cellules, c'est là qu'on retrouve le lien avec l'âme, le lien avec l'être. Et on retrouve aussi l'intelligence des cellules, l'élan de créer la vie. Hein? Et là, il y a eu, quand il y a conception, il y a vraiment eu un élan de créer la vie.
Oui.
Et qu'est-ce qui crée la vie? C'est vraiment cette énergie de vie qui est éternelle. Hein? Et, donc, on va aussi amener la personne pendant cette séance de thérapie, cette séance où on associe donc le FP, à se brancher sur l'omniprésence de l'amour. L'amour, il est là partout, au-delà des apparences. Les parents, ils ont des limites, nos parents, ils sont manquants par rapport à nos besoins, à tous nos besoins, mais tout ça, c'est un cadeau. C'est un cadeau d'évolution et ça, quand on comprend ça, ça change tout. Ça change
oui.
tout quand on comprend qu'en fait, les parents, s'ils avaient eu toutes les informations dont l'enfant avait besoin, ça aurait été formidable pour l'enfant, mais il n'avait pas toutes ces connaissances. Donc, on propose à l'enfant d'imaginer comment ça se serait passé si les parents avaient su, s'ils avaient pu expliquer à l'enfant, s'ils avaient su. On lui montre le futur aussi, on lui montre comment ça va se passer, comment les parents, alors de leur propre manière, vont lui montrer leur amour, comment ils vont prendre soin de lui. En fait, on est vraiment au premier plan, en position à l'avant de la conscience, toutes les marques d'amour, tout ce qui est positif pour l'être. Et ça lui permet de se reconnecter donc à sa puissance intérieure, à sa joie, à sa nature réelle.
Oui. À travers cette thérapie, on peut aussi lui appliquer, on peut lui apporter ces informations qu'il n'a pas pu avoir à ce moment-là. On peut lui parler en donnant les informations que les parents n'ont pas pu donner, par exemple.
Exactement, exactement. On lui donne ces informations. Donc lui, autant il va donner les informations de son côté de l'écran, c'est-à-dire toutes ses attentes et tous ses besoins qui étaient non comblés. Et de l'autre côté, on va lui donner les éléments de ce qu'était la réalité, que ses parents ne voyaient pas. Ils ne voyaient pas lui, ils imaginaient juste un bébé abstrait.
Oui.
Donc, ça aurait été lui ou ça aurait été un autre. C'était pareil, c'était pas par rapport à sa propre valeur. Hein, le ventre, il est opaque. Ça, c'était la révélation qu'elle a eue, Claude Imbert. En fait, c'est comme ça qu'elle a trouvé. Elle a eu une guidance intérieure qui lui a montré, quand elle était dans son revécu de petit bébé in utero, qu'il l'a sortie du ventre pour lui montrer, mais regarde, est-ce que ta mère, elle parle de toi ou est-ce qu'elle parle d'un bébé abstrait? Est-ce que le ventre est opaque ou est-ce qu'il est transparent ou est-ce qu'il est opaque? Et non, le ventre, il est opaque. Donc, le bébé croit qu'on le voit, mais c'est quand même un trompe-l'œil.
Oui, oui. En tout cas, c'est abstrait pour la mère. Enfin,
ouais.
Plus ou moins, il y a quand même le ressenti aussi qu'il y a quelqu'un là-dedans et ça diffère aussi d'une mère à l'autre.
Oui,
Alors, pendant cette vie intra-utérine, j'ai lu des statistiques comme quoi, en fait, il y a des grossesses jumellaires qui n'aboutissent pas beaucoup plus souvent qu'on ne pense. Est-ce que, à travers ce travail, on peut savoir si c'est le cas et quelles sont les implications d'un vécu comme ça?
Alors, on peut le voir à travers ce travail, à travers ces revécus de vie intra-utérine. On s'appuie aussi de ce que nous dit la recherche scientifique, hein, notamment de ce que dit un généticien qui s'appelle Charles Bocklage, qui est à l'université de Caroline aux États-Unis, et lui qui a fait des recherches, qui a trouvé à peu près 25% des grossesses qui sont des grossesses gémellaires. Donc, Claude Humbert, elle nous dit que c'est certainement davantage, que ça touche vraiment une grande partie des bébés, cette double conception. Hein. Elle parle de mémoire de gémellité éphémère. Hein. C'est gémellité éphémère qui s'est interrompue très tôt, et qui est passé inaperçu pour l'extérieur.
Oui, inaperçu même pour la maman.
Inaperçu pour la maman, exactement. Ce qui se passe vu de l'extérieur, du côté de la maman, c'est peut-être qu'elle va avoir des petites pertes de sang et qu'elle ira faire une consultation chez son médecin qui va lui confirmer que le bébé est toujours là. Donc, il n'y aura pas d'inquiétude. Mais en fait, vu de l'autre côté, du ventre, à l'intérieur, c'est un drame. C'est un drame qui se passe parce que c'est la première séparation, ou on va dire la deuxième séparation, parce que la première séparation, c'est l'illusion de séparation de là où on vient, hein, avec l'espace d'où on vient. Donc, cette deuxième séparation, c'est l'illusion aussi de la séparation avec le jumeau, parce que en fait, ce que l'on dit pour aider les personnes qui ont cette mémoire, ce qu'on leur montre, c'est déjà au niveau du cœur, les âmes proches ne sont jamais séparées, elles sont toujours reliées, et quand elles se connectent par le cœur, les personnes ressentent ce lien, ressentent vraiment cette unité avec l'autre. Donc il y a une séparation apparente qui est inhérente à la matière. Mais quand il y a cette connexion avec le tout, avec l'unité, on retrouve le lien avec ce jumeau. Mais en fait, ce que vit ce jumeau par la suite, c'est cette croyance, donc je l'ai dit, de séparation, et on le considère comme un jumeau né unique. Donc là, on peut voir dans beaucoup de cas des troubles qui sont liés à cette mémoire de gémellité éphémère. Dans les troubles que l'on va trouver, ça va être des troubles comportementaux, des mal-être, pour identifier donc si on a cette mémoire de perte d'un jumeau. C'est un sentiment constant de solitude ou d'incomplétude, des échecs dans les relations, des échecs répétitifs, des croyances que l'amour fait souffrir, des difficultés dans les séparations, dans les deuils. On va trouver aussi des troubles physiques, la boulimie par exemple, manger pour deux, l'anorexie, les compulsions, les migraines, les kystes dermoïdes aussi, hein, où on retrouve dans les kystes dermoïdes des traces de conception gémellaire avec des éléments organiques qui sont des traces de cette double conception, dans les malformations aussi. Donc, ça, c'est un signe de conception gémellaire. Et puis il y a d'autres petits signes, hein, des petits signes qui sont quand on va systématiquement acheter les choses en double. Hein. Ou alors, vous savez, quand on retrouve une seule chaussette quand on la sort de la machine à laver, et ça, c'est le stress. Où est l'autre chaussette? qui peut paraître anodin, mais
oui. Selon, mais qui peut être très angoissant pour certaines personnes. Oui.
Voilà. Et puis aussi, ce qu'on retrouve chez les enfants, c'est de l'hyperactivité, la dyslexie, des eczémas, des transferts sur le doudou aussi. Hein. Je peux avoir des doudous jumeaux.
Ah oui.
Mais dans tous les cas, c'est une blessure de rejet, d'abandon. D'accord. Ça nous parle de notre valeur. Ben, quelle valeur est-ce que j'ai si l'autre est parti? Ça va activer vraiment fortement des émotions de tristesse, de colère. Mm-hmm. Et donc la clé, c'est d'arriver à voir au-delà de l'illusion de la séparation, de comprendre que quelles que soient les apparences de séparation, on est toujours en connexion. Il y a des phrases clés qui sont des phrases que propose de dire Claude Imbert aux enfants et aux adultes qui ont cette mémoire de gémilité, qui sont des phrases trouvées dans la séance justement spéciale mémoire géménaire.
Oui, alors justement, c'est ce que tu nous proposes de vivre, enfin en avoir un aperçu en tout cas.
Oui. Alors, Maria, si tu veux te prêter
à l'exercice. Bien sûr, bien sûr. Moi, je me prête à toutes sortes d'expériences étranges en ce moment, donc on va pas s'arrêter là.
Hein. Voilà. Sachant que ça ne concerne pas uniquement les personnes qui savent qu'elles ont eu un jumeau.
Voilà, c'est ce que je voulais souligner.
Que peut-être elles ont eu un jumeau. Mais c'est quelque chose qui peut concerner tout le monde, finalement, quand qu'on se sente concerné ou pas. Quand on a des problèmes dans les séparations, un sentiment de division, de dualité, ça peut être un écho de la mémoire générale.
Oui. Et quand bien même ça ne viendrait pas de là, je pense que tout le monde peut se connecter à un souvenir de séparation, enfin de douleur de séparation.
Oui,
ça,
oui.
On l'a tous traversé à un moment ou un autre. Donc même si vous n'avez pas la certitude d'être concerné par ce problème, parce que voilà, comme on disait tout à l'heure, même votre maman n'est pas forcément au courant. Donc, et peut-être que vous ne l'aurez pas, cette certitude. Mais voilà, on fait la supposition que, tout en sachant que physiologiquement, on a prouvé qu'il fait au moins 25% des grossesses, c'est ça?
Au moins.
Ah ouais, c'est énorme.
À mon avis, beaucoup plus.
Oui, d'accord. Donc, ça peut pas faire de mal, de toute façon.
Que du bien, hein, ça peut nous permettre de gagner en autonomie, en indépendance, en unité intérieure, en paix intérieure aussi. Hein, vraiment pour... se réunifier toutes les parties de soi.
Ah. Oui. Alors, moi, je dis que ça vaut le coup. Moi, je vais tapoter.
Oui, ok. Bon, donc on va commencer avec donc une affirmation et un tapotement au niveau du point de karaté qui est donc sur le tranchant de la main. Mm-hmm. Une affirmation qu'on va dire trois fois ensemble.
D'accord.
Donc je vais
Si tu veux bien découper les phrases pour que moi je puisse les répéter et les gens qui nous écoutent aussi. Voilà, donc par petits bouts.
Voilà.
Digérable.
Voilà, exactement. Donc on va commencer en tapotant le tranchant de la main d'un côté ou de l'autre et en disant, même si une autre cellule a peut-être été créée avec moi dans le ventre de ma maman.
Même si une autre cellule a peut-être été créée avec moi dans le ventre de ma maman.
Et qu'elle n'a pas continué à se développer. Je m'aime et je m'accepte tel que je suis, complètement, entièrement.
Je m'aime et je m'accepte tel que je suis, complètement, entièrement.
Une deuxième fois, même si une autre cellule a peut-être été créée avec moi dans le ventre de ma maman.
Même si une autre cellule a peut-être été créée avec moi dans le ventre de ma maman.
Et qu'elle n'a pas continué à se développer.
Et qu'elle n'a pas continué à se développer.
Je m'aime et je m'accepte comme je suis, complètement, entièrement.
Je m'aime et je m'accepte comme je suis, complètement, entièrement.
Et une troisième fois, même si une autre cellule a peut-être été créée avec moi dans le ventre de ma maman.
Même si une autre cellule a peut-être été créée avec moi dans le ventre de ma maman.
Et n'a pas continué à se développer.
Qui n'a pas continué à se développer.
Je m'aime et je m'accepte tel que je suis, complètement, entièrement.
Je m'aime et je m'accepte tel que je suis, complètement, entièrement.
On va tapoter maintenant au sommet de la tête.
Mmh.
Une autre cellule.
Une autre cellule.
Un autre être.
Un autre être.
Une autre âme.
Une autre âme.
Début du sourcil. Un jumeau ou une jumelle.
Un jumeau, une jumelle.
Coin de l'œil. Un frère, une sœur, une âme amie.
Un frère ou une sœur, une âme amie.
Sous l'œil. Une autre cellule avec moi dans le ventre de ma maman.
Une autre cellule avec moi dans le ventre de ma maman.
Sous le nez, qui n'est pas resté, qui n'a pas continué à se développer, à évoluer.
Qui n'est pas resté, qui n'a pas continué à se développer et à évoluer.
Sous la bouche, pas continué à vivre.
Pas continué à vivre.
Sous la clavicule. Mémoire de gémellité éphémère.
Mémoire de gémellité éphémère.
Sous le bras, gémellité interrompue précocement.
Gémellité interrompue précocement.
Sous le sein, passé inaperçu, insoupçonné.
Passé inaperçu et insoupçonné.
On revient au sommet de la tête pour une deuxième ronde. Angoisse du départ de l'autre.
L'angoisse du départ de l'autre.
Début du sourcil. La peur panique de mourir aussi.
La peur panique de mourir aussi.
Coin de l'œil. La peur de ne pas être aimé.
La peur de ne pas être aimé.
Sous l'œil. La terreur d'être abandonné à nouveau.
La terreur d'être abandonné à nouveau.
Sous le nez, la peur de la solitude, de la séparation.
La peur de la solitude et de la séparation.
Sous la bouche, peur de l'avoir tué, d'être responsable de sa mort.
Peur de l'avoir tué. D'être responsable de sa mort.
Sous la clavicule, auto-punition, honte, dévalorisation.
Auto-punition, honte, dévalorisation.
Sous le bras, culpabilité d'avoir pris trop de place.
Culpabilité d'avoir pris trop de place.
D'avoir pris trop de nourriture au cordon.
D'avoir pris trop de nourriture au cordon.
Sous le sein, peur qu'il n'y ait pas assez d'amour.
Peur qu'il n'y ait pas assez d'amour.
Pas assez de place pour deux.
Pas assez de place pour deux.
On va venir maintenant au niveau des points sur les mains, sur la main, donc point de l'ongle du pouce. Colère, rancune, ressentiment.
Colère, rancune, ressentiment.
L'index. Impression de trahison.
Impression de trahison.
Majeur. Impression de n'avoir pas pu ou pas su le retenir.
L'impression de n'avoir pas pu ou su le retenir.
Au niveau de l'auriculaire, du coup, décision de ne plus penser, de ne plus entendre.
Du coup, la décision de ne plus penser ou de ne plus entendre.
Le point de gamme, maintenant, donc sur le dos de la main, entre le petit doigt et l'annulaire, sur les phalanges, enfin sur les métacarpes. Donc le point de gamme, décision hâtive de ne plus voir, de ne plus ressentir.
Décision hâtive de ne plus voir et de ne plus ressentir.
Pour ne plus souffrir.
Pour ne plus souffrir.
Sommet de la tête. Impuissance. Décision erronée de ne plus m'attacher.
Impuissance et décision erronée de ne plus m'attacher.
Début du sourcil. Décision illusoire d'aimer peu pour ne plus souffrir.
Décision illusoire d'aimer peu pour ne plus souffrir.
Fausse croyance de ne pas avoir droit au bonheur avec les autres.
Coin de l'œil, fausse croyance de ne pas avoir droit au bonheur avec les autres.
Sous l'œil, illusion de ne pas être capable d'être heureux à deux.
L'illusion de ne pas être capable d'être heureux à deux.
Sous le nez, croyance inexacte que l'amour égale souffrance.
Croyance inexacte que l'amour égale souffrance.
Sous la bouche, croyance de ne pas être complet, que les liens durables ne durent pas.
Croyance de ne pas être complet, croyance que les liens durables n'existent pas.
Clavicule, absolument me souvenir du plan tel qu'il était à l'incarnation.
Absolument me souvenir du plan tel qu'il était à l'incarnation.
Sous le bras, cette âme était une accompagnante de ma venue, pas destinée à rester.
Cette âme était une accompagnante de ma venue, pas destinée à rester.
Sous le sein, son âme a choisi la cellule avec l'ADN programmé pour ne pas évoluer.
Son âme a choisi la cellule avec l'ADN programmé pour ne pas évoluer.
Coin du pouce, mon âme a choisi la cellule avec l'ADN programmé pour évoluer.
Mon âme à moi a choisi la cellule avec l'ADN programmé pour évoluer.
Pour naître et pour grandir.
Pour naître, pour grandir.
Coin de l'index, compréhension que son programme était de partir.
Compréhension que son programme était de partir.
Le majeur, que mon programme à moi était de rester. C'était prévu comme ça.
Que mon programme à moi, c'était de rester. C'était prévu comme ça.
L'auriculaire, après m'avoir accompagnée, elle est remontée continuer son chemin dans la lumière.
Après m'avoir accompagnée, elle est retournée continuer son chemin dans la lumière.
Point de gamme, tandis que moi, mon chemin, c'était de naître unique.
Tandis que moi, mon chemin était de naître unique.
Et dernière ronde, sommet de la tête, il y a beaucoup d'amour entre nous et cet amour est éternel.
Il y a beaucoup d'amour entre nous et cet amour est éternel.
Début du sourcil, c'est un pont de lumière entre nous, cet amour.
C'est un pont de lumière entre nous, cet amour.
Coin de l'œil, un magnifique arc-en-ciel qui durera toujours.
un magnifique arc-en-ciel qui durera toujours.
Sous l'œil, chacun est sur le plan où il a besoin d'être pour son chemin d'évolution.
Chacun est sur le plan où il a besoin d'être pour son chemin d'évolution.
Sous le nez, nous sommes parfaitement justifiés, chacun dans sa place.
Nous sommes parfaitement justifiés, chacun dans sa place.
Sous la bouche, je comprends que les liens entre les âmes proches sont durables et éternels.
Je comprends maintenant que les liens entre les âmes proches sont durables et éternels.
Sous la clavicule, je réimprime cette nouvelle compréhension dans chaque étape de ma vie qui en a besoin.
Je réimprime cette nouvelle compréhension dans chaque étape de ma vie qui en a besoin.
Sous le bras, d'abord dans le petit embryon.
D'abord dans le petit embryon.
Sous le sein, puis dans le petit fœtus.
Et puis dans le petit fœtus.
Sommet de la tête, dans le bébé à la naissance.
Dans le bébé à la naissance.
Début du sourcil, dans le nourrisson à quelques mois.
Dans le nourrisson à quelques mois.
Coin de l'œil, dans le petit enfant qui commence à marcher.
Dans le petit enfant qui commence à marcher.
Sous l'œil, dans l'enfant.
Dans l'enfant.
Sous le nez, dans l'adolescent.
Dans l'adolescente.
Sous la bouche, jusqu'à l'âge adulte d'aujourd'hui.
Jusqu'à l'âge adulte d'aujourd'hui.
Sous la clavicule. Et à partir de maintenant, dans l'adulte du futur proche.
Et puis, à partir de maintenant, dans l'adulte du futur proche.
Sous le bras, je sens ma vie s'éclairer à chaque instant de cette nouvelle conscience.
Je sens ma vie s'éclairer à chaque instant de cette nouvelle conscience.
Et sous le sein, je me donne maintenant le droit à exister entier et unifié.
Je me donne maintenant le droit à exister entière et unifiée.
Oui.
Ah, wow, que de frissons d'énergie, de... Ah, c'est beau.
Voilà. Ça se décline après encore de plein d'autres manières. Hein. Ça, c'était un exemple.
Oui.
Ce qu'on peut faire avec les mémoires prénatales, c'était un petit peu une synthèse pour donner une petite idée de tout le déroulé d'une séance.
Oui, de ce qui est possible, bien sûr. Après, il faut s'adapter au vécu de chacun.
Exactement. Oui. Ça, c'était vraiment pour montrer globalement ce que c'est.
Oui.
Voilà.
Alors, même pour moi qui me considère non concernée par cette problématique, mais finalement, je n'en sais rien, j'ai ressenti beaucoup d'émotions pendant ces rondes. Et je te remercie vraiment, Emmanuel. C'était une très belle expérience. Mmh. Et pour les personnes qui nous écoutent, qui sont peut-être dans ces 25+% qui sont concernées, tu es d'accord avec moi de conseiller de continuer à tapoter, parce que là, c'est peut-être pas tout résolu. Ça peut être fort. Hein.
À tapoter, et il peut y avoir plein de mémoires qui émergent.
Hein. Oui.
Et ça peut être vraiment fulgurant. Lorsque la mémoire remonte, et c'est pour ça que là, à ce moment-là, il y a vraiment besoin d'un accompagnement, d'une compréhension, de lire les livres de Claude Imbert, parce qu'elle explique vraiment très bien et elle donne beaucoup d'aide par rapport à ça, parce que moi, je sais que personnellement, je l'ai vécu et c'était d'une fulgurance, c'était d'une grande puissance émotionnelle, donc.
Oui.
Voilà.
Oui, tu nous donneras les références pour qu'on puisse les mettre dans le mail qui accompagnera la réécoute de cette conférence.
Voilà, exactement.
Alors, il va falloir conclure. Quelques derniers mots, Emmanuel, avant de passer aux questions.
Oui, volontiers. Donc, voilà, ce que je voudrais dire pour synthétiser ce que je viens d'exprimer, c'est que cette démarche en mémoire prénatale, c'est une approche dans le courant de l'unité. Et ça, à partir de la vie prénatale. Hein, ça fait du lien, ça met de l'unité dans tout le vécu. Et la bonne surprise pour le petit embryon, c'est de découvrir l'illusion de la séparation. Que l'illusion, elle est en fait inhérente à la matière. Elle est inhérente à la matrice dans laquelle il arrive. Hein. mais qu'en fait, où qu'il soit, il est toujours en unité, il fait toujours un avec le tout. Et ça, c'est ce qu'il découvre. Et cette sensation d'unité, c'est vraiment très puissant. Et les personnes la décrivent très bien pendant la séance. Quand on a réussi à voir au-delà des apparences, ça fait comme une réconciliation intérieure. Et on a un rôle à jouer, nous, les adultes, vis-à-vis des petits bébés qui arrivent. Hein, c'est un petit peu comme un rôle d'éclaireur pour les aider à se souvenir de leur essence. Leur essence est éternelle, hein, à garder la conscience d'où ils viennent. Ils sont des êtres d'amour, des êtres de lumière, dans un corps de matière cellulaire. Hein, et pour qu'ils puissent, à l'intérieur du ventre de leur maman, à l'intérieur du petit cocon, rester constamment connectés au réel de la conscience supérieure. Constamment connectés à qui ils sont en réalité. Et qu'en fait, leur maman, leur papa, c'est un petit peu comme une manière de les reconnecter à cette conscience mère et conscience père, mais de l'absolu, de la mère et du père d'origine. C'est vraiment par extension, c'est ça. Hein, on va dire, papa et maman, ils sont là pour nous faire garder cette conscience. Et puis cette reconnaissance aussi de la continuité de qui nous sommes, hein, qui permettra à chacun de se reconnaître en tant que bébé, en tant qu'enfant, en tant que femme et homme de paix. Ça, c'est un choix, c'est un engagement, comme pendant la naissance, il y a un engagement dans ce grand voyage sur notre belle planète Terre.
Ah oui, la Terre mère. Ouais. Et père. Oui. Magnifique. Oui, c'est ça que j'ai ressenti pendant ces rondes, vraiment la connexion avec, moi j'appelle ça la source, avec l'unité. C'est peut-être Dieu pour certaines personnes, la connexion avec le tout.
Oui.
J'en ai encore plein de frissons. Magnifique, merci du fond du cœur, Emmanuel, pour tout ce que tu as partagé dans cette conférence.
Merci à vous, merci à tous, merci à Claude, voilà. Et puis voilà, je suis prête à répondre aux questions.
Oui, prépare-toi parce que là, il va y en avoir des questions. Donc, on se donne rendez-vous tout de suite dans le chat. Merci Emmanuel. À tout de suite.
Merci Maria, à tout de suite.
Voilà, le chat est ouvert. Lancez-vous, posez vos questions à Emmanuel qui se prépare à les découvrir.
Il faut atterrir.
Pendant ce temps, oui, il faut atterrir.
Tapping pareil.
Prenez votre temps. C'était fort. Hein.
C'était pas rien.
Mais en même temps, c'est rarement rien.
Et en même temps, c'est quelque chose.
Oui. Voilà, c'est de nouveau ouvert, Emmanuel. Est-ce que tu m'entends?
Oui, Maria, je t'entends.
Super.
Je t'entends, donc je vois beaucoup de questions. Oui. Je vais donc en lire une première qui me paraît assez importante. Donc vraiment sur le thème de la gémellité, j'ai l'impression que ça a touché vraiment beaucoup de personnes qui se sont retrouvées et qui ont vraiment résonné.
S'il y a eu beaucoup d'émotions, surtout continuer à tapoter en écoutant les réponses.
Exactement, parce que c'est vraiment un sujet qui donne des frissons et qui touche vraiment au plus profond, comme le disent les témoignages. Donc une première question. Donc bonsoir, moi-même jumelle née seule, difficulté à vivre, à trouver ma place, à comprendre jusque très tard, 50 ans. Pour pouvoir en parler et tenter d'aller mieux. Mariée, deux enfants, divorcée, deux enfants, seule depuis 23 ans, pas de rencontres qui me correspondent ou qui me suffisent. Donc, voilà, donc beaucoup de personnes dans ce cas de gémellité éphémère, de l'autre qui est venu. En fait, souvent, ce qui s'est passé, c'est que au moment de l'incarnation, le choix est fait par deux âmes, parfois trois âmes, de venir ensemble. Il y a un plan qui est pour un programme qui est pour l'une des âmes de venir et de s'incarner pour évoluer à travers une vie intra-utérine et ensuite naître et apprendre à grandir seule en tant que jumeau, jumelle, née unique. Et parallèlement, donc, il y a une, voire parfois deux âmes accompagnantes qui ne viennent que pour une partie du chemin. Et ce qui est important de comprendre, c'est que malgré l'illusion de la séparation, parce qu'à un moment donné, une des âmes, donc l'âme qui n'était pas destinée à rester, pour laquelle le programme n'était pas de rester, cette âme repart sur son chemin, repart sur les plans de lumière, sur les plans supérieurs, et l'âme, le petit bébé, le petit embryon, lui, continue à grandir seulement. C'est là que s'installent les premières croyances de séparation, les premières croyances de rejet, d'abandon. Et ensuite, les décisions de devoir toujours se débrouiller seul, de ne pas être aimé, de se sentir en rupture, de se sentir en séparation, autant avec l'autre que d'avec la maman et puis soi-même, parce que souvent la décision c'est je ne veux plus rien ressentir dans mon corps, donc je me coupe de mes sensations, je me coupe de toutes mes sensations pour ne plus ressentir cette souffrance tellement elle est violente, elle est vraiment trop violente. Donc vraiment dans le travail de reconstruction, de restructuration, les prises de conscience, c'est retrouver ce moment de la séparation, retrouver le jumeau, voire éventuellement contacter l'âme du jumeau, vraiment entrer en relation avec cet être et voir que son chemin était différent et pouvoir échanger ce qui n'a pas pu être échangé au moment où l'autre est parti. Voilà, ceci et beaucoup, beaucoup d'autres actions, d'autres prises de conscience à faire pendant une séance, soit en individuel, soit en groupe. Voilà, mais je comprends tout à fait ces sensations, car moi-même j'ai vécu cette expérience. Donc au moment où on retrouve ce moment de séparation, c'est une tristesse immense. Et puis après, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis coupable. Donc là, s'installe la culpabilité et la croyance de ne pas être aimable. Voilà, tout ce processus que l'on connaît, qui est en fait une illusion. Ça, c'est la bonne nouvelle. C'est une illusion.
Ouais,
seulement, voilà, le chemin, c'est d'en prendre conscience dans son corps, dans ses cellules. Et c'est ce que l'on fait en séance. C'est vraiment, c'est pas du tout mental, c'est vraiment un ressenti corporel. Et là, on voit vraiment la vibration de la personne qui change, son visage qui s'éclaire quand elle fait la prise de conscience que malgré la séparation, les liens d'amour perdurent. Qu'il y a toujours cette connexion, ce lien entre les âmes proches, les âmes qui s'aiment, même si on est chacun sur un plan d'incarnation différent. Chacun a sa juste place. Voilà.
Dis-moi, Emmanuel, je regarde un peu tout ce que les gens écrivent dans le chat, et là apparaissent dans ce chat plein de souffrances de gens qui se reconnaissent là-dedans et qui... Cette blessure de séparation et de vide intérieur, on le rencontre souvent en cabinet. Là, sur le chat, il semble que beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes soient touchées par ça. Est-ce que tu pourrais, je comprends bien le travail que tu peux faire en séance avec quelqu'un, mais commencer à libérer ça seul, est-ce que c'est possible? Est-ce que tu peux donner des clés?
Oui, on peut commencer à libérer ses empreintes, ses mémoires soi-même, hein, en commençant déjà par des phrases qu'on va dire sur le point karaté.
Hein. Oui.
Par exemple, même si j'ai l'impression d'être séparée intérieurement, même si j'ai l'impression de ne pas être entière, même si il me manque, j'ai l'impression d'un manque par rapport à ce sentiment d'incomplétude. Hein? Donc déjà, je vais commencer avec ces phrases-là et laisser sortir tout ce qui est dans cette sensation de ne pas être entier, cette sensation aussi d'avoir la présence d'une de l'autre qui est pas loin et qui nous inspire, qui peut être parfois toujours dans le système énergétique de la personne. Mmh. C'est un cas que j'ai trouvé à plusieurs reprises, c'est-à-dire que soit l'âme qui a commencé à s'incarner et qui n'est pas restée, donc dans une grossesse précédente de la maman, soit il y a eu une fausse couche, soit il y a eu un avortement, et cette âme n'est pas complètement remontée et elle est toujours là dans le système énergétique de l'enfant et de la personne. C'est pour ça que je vois des questions, par exemple, lorsque j'étais petite, alors où est-ce qu'elle est cette question? Lorsque j'étais petite, je m'inventais une jumelle, je me sentais très seule, je m'inventais une jumelle. Là, beaucoup de personnes dans ce cas-là ont cette impression, et lorsque le travail se fait, il y a vraiment une libération, c'est-à-dire que si en plus l'autre était d'une autre polarité, d'un autre genre, fille, garçon, il y avait vraiment une impression de dualité intérieure. Et quand cette âme, par ce travail, commence à partir sur son chemin, la personne se sent complètement libérée et elle se sent redevenir, être complètement elle-même. Donc, voilà, par rapport au tapotement, je dirais de décliner tout ce que l'on ressent, dans vraiment rester dans le corps. À chaque fois rester dans le corps, ressentir dans mon corps. Dans quelle partie du corps est-ce que je me sens séparée, par exemple? Il y a des personnes, ça va être au niveau des bras, d'autres personnes, ça va être au niveau du ventre, d'autres au niveau du dos, d'autres au niveau de la tête. Et ça nous parle de la manière dont on était dans l'utérus, dans le ventre, la manière dont on était avec l'autre, hein, lorsqu'il était avec nous dans le ventre.
Je vais rebondir sur Janine qui nous dit dans le chat « Je n'ai pas eu à ma connaissance de jumeaux ou de jumelles et je souffre beaucoup du dos depuis que je viens de faire ce tapping.
» Oui, c'est bien possible que ça ait réveillé justement, comme je le disais, cette sensation. Et souvent, c'est au niveau des reins. Parce que au niveau des reins, on a ces deux petits haricots hein, qui, symboliquement, dans l'inconscient, symboliquement ou même réellement font penser à ces deux petits embryons jumeaux dans le ventre. Je sais que personnellement, lorsque j'ai eu à travailler cette empreinte, que Claude Imbert m'a dit « Demain, Emmanuel, c'est toi qui passes pour cette mémoire de gémellité », je me suis réveillée avec un mal de dos, un mal de rein, mais incroyable, avec une peur vraiment dans le corps de trouver quelque chose que je sentais, que je soupçonnais. Et voilà, ce qui peut être en rapport avec le dos. Ce que je voudrais dire, c'est que tant qu'on n'a pas retrouvé cette mémoire de gémellité, c'est comme s'il y avait une sorte de non-dit, en fait. Une sorte de non-dit.
D'accord.
C'est-à-dire que c'est comme un deuil qui n'a pas pu être fait. Donc, tant que ce deuil n'a pas été reconnu, n'a pas pu être fait, qu'on n'a pas pu mettre à jour qu'il y avait un autre et que cet autre est parti et qu'on a vécu une séparation terrible, eh bien, tous les autres deuils de la vie sont difficiles.
En tout cas, on peut peut-être conseiller à Janine et à toutes les personnes qui auraient eu des mémoires qui se seraient réveillées pendant ce tapping de continuer à tapoter, en étant en contact avec leur ressenti, leur douleur de mal au dos ou autre, et de continuer à stimuler sur tous les points en faisant confiance au processus, sachant que l'EFT permet de remettre de la fluidité dans le système énergétique et libère ce qui peut apparaître ici et maintenant. Tu es d'accord avec ça?
Oui. Et vraiment de se connecter à cet être, à cet être qui est parti et se connecter dans son cœur, sachant qu'il est toujours là et nous sommes toujours en lien avec lui. Dans ses croyances de séparation, la première croyance de séparation, c'est la séparation d'avec la source, en fait. C'est au moment de l'incarnation, il y a ce voile et il y a cette impression de ne plus être en lien, de ne plus être en connexion avec la source, avec l'unité. Ça, c'est la première croyance de séparation. Après, il y a la croyance de séparation d'avec nos guides, parce que très souvent, nos guides de lumière, on a l'impression d'avoir perdu le contact. Or, ce qui est faux, parce que quand on retrouve ce contact avec eux, on voit bien qu'ils ont toujours été là, qu'ils étaient vraiment. Ça, c'est vraiment très important d'en prendre conscience, c'est que nos guides de lumière sont là, vraiment. Et les personnes, quand elles le retrouvent, c'est une immense émotion, une immense joie, et tout d'un coup, c'est waouh, quoi. Je vis ma vie différemment. Chacun est vraiment à nouveau reconnecté à lui-même et donc à sa lumière intérieure. Et la troisième croyance de séparation, c'est la séparation avec le jumeau, la jumelle. Et puis après, tout au long de la vie, à chaque séparation, comme des poupées gigognes, ça va se réactiver. Donc, il va y avoir des déclencheurs qui vont réactiver une cause qui est une croyance erronée de séparation avec la source.
C'est vraiment important, comment tu le dis, je trouve, cette croyance erronée.
Oui. Oui, parce que c'est une illusion et les apparences, la matière nous fait croire qu'on est séparés, qu'on est tous séparés en plus les uns des autres.
Oui.
Alors, je ne sais plus qui posait la question par rapport à son propre enfant. Elle a un garçon de 4 ans, non, c'est pas celle-là. Elle est persuadée d'avoir perdu un enfant. Enfin, perdu l'autre jumeau. Oui. Comment est-ce qu'elle peut accompagner son fils qui a 4 ans donc pour surmonter cette séparation?
Oui. Alors il faut savoir une chose, c'est que jusqu'à l'âge de 7 ans, les enfants se souviennent très très facilement de leur vie intra-utérine. Moi, auprès de plein d'enfants, j'ai demandé est-ce que tu te souviens comment ça se passait quand tu étais dans le ventre de ta maman? Et si vous demandez ça à votre enfant, vous pouvez lui demander dans un moment où il est un peu dans la rêverie. Claude Imbert nous dit parfois en voiture, parce qu'ils sont un peu comme en état alpha. Et demander à l'enfant déjà s'il se souvient comment c'était. Et l'enfant va peut-être le dire spontanément, naturellement. Ce qui arrive souvent, c'est arrivé dans plusieurs cas. Quand j'ai donné des formations en hôpital à des puéricultrices, quand je parlais de cette mémoire, qui ont demandé à leurs enfants, et l'enfant a dit « mais oui, je me souviens », notamment un petit qui a dit « mais oui, je me souviens, il y avait Baptiste ». Baptiste, c'était son plus jeune frère. Ça, c'est, et il est revenu après, maman, tu sais, il est parti et il est revenu après. Et ça, ça arrive fréquemment. Alors, pour répondre à cette maman de ce petit enfant de 4 ans, c'est donc déjà lui poser la question en fonction de ce qu'il va répondre, s'il se souvient, peut-être d'un autre, d'une autre, lui demander est-ce que tu étais tout seul, est-ce que tu te souviens si il y avait quelqu'un avec toi dans mon ventre,
est-ce que tu sais pourquoi il est parti, à ton avis, qu'est-ce qui s'est passé?
Exactement, exactement. C'est en fait retrouver ce moment de la séparation pour comprendre que si l'autre est parti, c'est qu'il était justifié de partir, c'est qu'il avait son chemin à suivre et qu'il ne nous a pas abandonnés, il ne nous a pas quittés. Et ce petit enfant, c'est lui dire vraiment que toi, ton chemin, c'était de grandir, de naître et de vivre et d'évoluer, et que c'était le chemin que tu avais choisi. Et que cet autre petit, cette autre cellule, alors on peut parler de cellule, ça peut être aussi plus, un petit peu plus neutre, que cette autre cellule, eh bien, elle a continué sur son chemin, et que vous êtes chacun justifié sur le plan sur lequel vous êtes. Et là, on a de nombreux cas avec des enfants qui étaient hyperactifs, des enfants qui étaient dyslexiques, des enfants qui avaient des problèmes, des malformations qui se sont résorbés avec échographie avant, échographie après. Voilà, juste en disant ces mots, ce sont vraiment des clés de guérison que nous donne Claude par rapport à cette mémoire de gémellité éphémère. Mais que tout a un sens. Hein. On est venu pour découvrir que les liens au-delà de la matière sont éternels.
Oui. Il y a plusieurs questions dans le chat. Il y a Mia qui pose la question et puis je l'ai vu passer plusieurs fois.
Lys,
est-ce que tu peux, Emmanuel, en dire un peu plus sur ce que tu proposes, les trois lots qu'elle présente dans la boutique?
Alors, les trois lots que je présente dans la boutique, donc un premier, donc c'est sur les mémoires de l'enfance. les mémoires de l'enfance. Donc, parfois, il est un petit peu difficile pour certaines personnes de retourner directement dans la vie intra-utérine. Donc, on va retourner dans les mémoires de l'enfance et on va retrouver donc ces moments où il y a eu des situations de conflits, de conflits émotionnels, et on va voir que c'est toujours donc en résonance avec la vie intra-utérine. Donc, je commence à donner quelques clés, mais c'est vraiment là au niveau de l'enfance. Pour ce premier lot de séances. Donc, ce sont trois séances d'EFT qui sont complètement inspirées des séances de Claude Imbert pour guérir cet enfant à l'intérieur de soi, cet enfant qui se sentait pas capable, pas le droit, pas aimable, enfin, voilà, ce petit enfant en souffrance. Et c'est notre adulte, l'adulte que l'on est aujourd'hui, qui est là pour s'occuper de ce petit enfant. Donc ça, c'est le premier pacte. Le deuxième pacte, c'est les mémoires de la généalogie, parce qu'on va voir que souvent les parents donc ont cette mémoire de gémellité, et puis bien d'autres mémoires qui sont transmises également. Donc le but, c'est de retrouver les ressources positives de la généalogie, d'identifier bien sûr tout ce qui nous a été transmis et auquel on s'est associé, hein, auquel on a fait ce choix de s'associer, toutes ces empreintes limitantes, pour aller contacter nos ressources profondes, hein, tout ce qu'on venait pour révéler, pour mettre vraiment en scène. Et donc, dans cette séance, on retrouve toutes nos ressources. Pour vraiment les réactiver. C'est des ancrages, ce qu'on appelle des ancrages cellulaires, voilà, dans la matière. Donc, trois séances de généalogie et puis trois séances incarnation, conception. Alors, ces séances sont, je les adore aussi, c'est des séances où on va retrouver le oui des âmes à l'incarnation, c'est-à-dire le oui qu'on dit les âmes de nos deux parents avec le oui de notre âme pour cette vie, pour nous accueillir. Et ça, c'est une immense preuve d'amour, parce que nos parents, même s'ils ont été qui ils ont été et comme ils ont pu avec toute leur tout ce qu'ils ils avaient aussi comme poids et comme valise, eh bien, ils ont quand même accepté de nous accueillir, sachant qu'ils allaient être manquants. Et nous, on a fait ce choix d'y aller, donc on n'est pas une victime, on n'est pas victime de nos parents, on n'est pas victime de la vie, on a fait ce choix conscient. Donc retrouver ce oui des âmes, c'est vraiment puissant comme séance. Le oui des cellules aussi, le moment de l'incarnation, de la conception, et le oui des cellules, où là on voit souvent quand il y a une mémoire de non-désir ou de préférence de sexe. Par exemple, un enfant de l'autre sexe, c'est que au niveau de la conception, les cellules étaient complètement responsables, complètement actives dans cette conception, avec des chromosomes XX pour une petite fille et des chromosomes XY pour un petit garçon. Donc, c'est pas un hasard, c'est pas quelque chose dont on n'est pas responsable. Finalement, on est complètement acteur dans tout cela. Donc, ces trois fois trois séances sont celles-ci. Dans toute la formation que je propose, il y a donc un stage qui arrive fin juin, les 26, 27 et 28 juin, en région d'Avignon, sur la vie intra-utérine et la mémoire de gémellité. Là, ça va être vraiment la mémoire de gémellité que l'on va aborder dans ce stage et que l'on va guérir tant que faire se peut. Hein.
Tu te déplaces en France, toi, Emmanuel ?
Oui, je me déplace en France. Je me déplace en France beaucoup plus pour mes formations auprès des sages-femmes pour l'instant. Et pour ce qui est des formations EFT et libération des libertés des mémoires prénatales, c'est pour l'instant sur Avignon. Voilà, et donc le dernier stage qui a lieu au mois de juin, fin juin, c'est le stage de naissance. Et là, vraiment, on met en scène complètement cette naissance, ce revécu de naissance, pour comprendre que c'est une réactivation de la conception et des décisions de l'âme, de son chemin de vie qui était un chemin divin, divinement guidé pour retrouver toutes les ressources qu'on venait retrouver.
Super. En tout cas, pour les gens qui n'achèteraient pas tous ces produits et tout ça, l'UFT classique, et on le rappelle, c'est de stimuler les points en étant connecté à ses ressentis. Et là, tu viens vraiment de nous donner des clés, de rajouter cette connaissance que c'est une illusion de séparation et que nos peurs, nos blessures viennent de ces sensations mises en place ou au moment de la conception et avant.
Oui, oui, oui. Alors, il y a une question là qui me... à laquelle je voudrais répondre, qui dit, j'ai eu une très forte émotion pendant cette séance. Est-ce que mes migraines viennent de mon jumeau parti? Migraine.
Ah oui.
Graine.
Moitié de graine.
Vous entendez dans la langue des oiseaux, moitié de graine, hein? Ça, c'est clairement, oui, un des symptômes. Un des symptômes.
Et bon, on peut bien sûr avoir des migraines sans être passé par là.
Oui, mais bien sûr, bien
si
sûr.
Si on se pose la question, en écoutant bien les mots, effectivement, ça en tout cas, c'est une piste à suivre, je pense.
C'est une piste à suivre, et alors ça me rappelle justement une de mes collègues lors de ma formation, le jour où elle devait travailler sur cette mémoire de j'ai médité, enfin le jour, le stage d'ailleurs, elle a été prise 2 jours avant d'une névralgie au niveau de son trijumeau, au niveau du visage, ce muscle du trijumeau. Mmh. Et voilà, elle savait même pas qu'il y avait, enfin d'ailleurs, je ne savais pas non plus qu'il y avait un muscle qui s'appelait comme ça, et elle l'a découvert, et dans ce stage, elle a découvert aussi ces empreintes de gémellité.
Ouais, ouais, c'est un nerf très important, ce nerf trijumeau.
Ouais.
Il y a plusieurs questions, Emmanuel, sur est-ce que le fait d'avoir eu un jumeau, une jumelle qui serait partie pourrait être cause d'infertilité ou difficulté à avoir des enfants?
Tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, l'ostéopathe qui m'a présenté Claude Imbert il y a une quinzaine d'années a pu, elle, concevoir son enfant après une longue période de fertilité non organique, a pu concevoir son enfant suite à sa thérapie prénatale avec Claude Imbert. C'est en effet un frein, hein, par rapport à la conception. C'est cette croyance que l'autre est parti, cette croyance que c'est souffrant de porter la vie et que la vie se termine ben en non-vie puisque s'il y a eu un jumeau qui est parti, c'est associé à la mort et en effet ça peut être très très difficile ensuite de concevoir un enfant ou même un deuxième enfant, même si c'est qu'il y ait eu une première conception, ce qui était mon cas, et la deuxième conception ne s'est pas faite. Voilà, plusieurs reprises, plusieurs fausses couches, et quand j'ai découvert que c'était ce lien. Donc, voilà.
Emmanuel, qu'est-ce que tu peux dire à Valérie P, qui dit qu'elle elle avait des malaises suite à la démonstration tout à l'heure, et comme on a conseillé, elle a continué à tapoter, elle dit plus je fais les rondes, plus j'ai mal.
Elle a mal où? Ah oui, ben on ne peut pas le savoir.
Non, elle n'a pas dit.
Elle va peut-être le dire.
Oui,
mais
je crois qu'elle faisait partie de ceux qui avaient mal au dos.
Imaginons qu'on le...
Et alors, quel continue, en fait
Non, elle avait des contractions dans le bas-ventre.
Ah, mais elle était enceinte?
Non. Enfin, j'espère pas. Dans ce cas-là, c'est tout de suite, Valérie.
Alors, reprenons la question. Mais dans tous les cas, si vous avez des douleurs suite à cette séance, mal au ventre. Vous arrivez à tapoter gentiment, doucement, en prenant soin de vous et en prenant soin de ce petit bébé intérieur, en essayant de le contacter, ce petit bébé intérieur qui est toujours là et qui s'exprime dans les émotions en vous. Hein, et parlez-lui doucement et rassurez-le. Dites-lui si tu as mal. Si tu as des douleurs, c'est peut-être des douleurs qui sont en lien avec cette mémoire de gémellité. Hein, et de continuer à tapoter tout doucement, d'aller tapoter sur les douleurs aussi, hein, tout doucement.
Ok, non, elle confirme qu'elle n'est pas enceinte.
Et également, de continuer à tapoter, si on sent une peur parce qu'une douleur apparaît, d'inclure cette peur d'être en contact avec...
d'être en contact avec ce bébé qui est...
Avec ce bébé. Oui, d'être... tu sais, quand on vit des choses pour la première fois, il peut aussi y avoir la peur de dire « Mon Dieu, mais je viens de déclencher quelque chose, c'est terrible et ça peut faire peur. »
Tout à fait. Et alors là, au contraire, ça va être une libération. Ça va être vraiment une libération. Hein, mais c'est quelque chose, en effet, quand on prend contact avec tout ce pan occulté, ce pan de vie occulté, ce pan de vie intra-utérine qui est toujours présent dans les cellules, mais pas, enfin, qui remonte tout doucement à la conscience. En effet, ça peut ramener des douleurs. Voilà. Donc, ce que je propose à Valérie, c'est ça.
Oui.
C'est aussi éventuellement de continuer à m'écrire via le.
Oui, via la page de réécoute tout à l'heure.
Voilà. Pour que je puisse l'accompagner peut-être un peu plus personnellement par rapport à...
Qu'est-ce qu'on... Où est-ce que les gens peuvent te contacter, voilà. Emmanuel
ton... Peut-être le bon moment de donner ton site internet, Emmanuel.
Oui. Donc, mon site internet, c'est www.bio-energetique thérapie, tout attaché, therapie, .vpweb.fr. Et je...
Tu veux donner ton adresse email?
Je peux donner, voilà, mon adresse email. Mon adresse email, c'est reconnaissance, reconnaissance, cocon, cocon-6, natal, natal, @live.fr.
Formidable. Comme Merci. Ça, si Valérie veut t'envoyer un email ou quelque chose comme ça avec ces questionnements.
Et tu es donc basée à Avignon, tu te déplaces parfois, surtout pour former des sages-femmes dans les hôpitaux, dans les cliniques, et tu fais également des séances par Skype, je crois.
Voilà, exactement, donc des séances par Skype que l'on peut mettre au point avec les personnes qui le souhaitent, pour ces séances de EFT prénatale, bien sûr.
Oui. Voilà, et si vous choisissez d'investir dans un pack du congrès, vous aurez une réduction sur le stage d'été à Avignon, fin juin donc, et les consultations avec Emmanuel.
C'est ça. Et avec la remise, ça vous fait baisser le prix du pack à un prix incroyablement bas.
Ben, c'est à demander si on ne vous doit pas de l'argent.
Alors, il y a aussi, ce que je voulais dire, c'est le site de Claude Imbert est très pédagogique. Je vous invite tous à aller le consulter, ce site, parce qu'elle donne vraiment toutes les arcanes de la vie prénatale et toutes les empreintes de guérison, les clés de compréhension. Enfin, vraiment, il est excellemment bien fait. Donc, c'est le site prénatal. Et son site, c'est donc www.claude-imbert.com.
Imbert, tu peux nous épeler, s'il te plaît?
I-M-B-E-R-T.
Merci beaucoup. Il y a une question. Est-ce que tu aurais un début de réponse ou une réponse au sujet des naissances après un viol?
Alors
la question n'est pas formulée, en fait.
C'est une autre question qui a été reprise par quelqu'un.
Oui, mais je l'ai trouvée tout à l'heure et c'est la question, c'est juste et pour les naissances après un viol. Point d'interrogation.
Ouais.
Ce qui n'est pas vraiment une question.
Pardon?
Ce qui n'est pas vraiment une question complète.
Oui. Donc je remonterai à la conception au moment du viol. En fait, dans les statistiques, les conceptions sont beaucoup plus importantes dans les cas de viol que dans les cas de rapports sexuels normaux, classiques. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est le système de survie qui se met en marche, c'est le cerveau reptilien qui se met en marche avec vraiment le réflexe, l'instinct de survie, l'instinct de procréation de la vie, de procréation de l'espèce.
Mmh.
Donc, ça, c'est déjà ce qui peut expliquer le pourquoi de la conception beaucoup plus importante dans les cas de viol. Pour les enfants qui sont nés, donc pour lesquels la maman soit n'a pas avorté, soit n'a pas pu avorter et a continué à garder l'enfant, c'est vraiment focalisé sur l'amour de la maman pour cet enfant, hein, et ce que montre le fait qu'elle a gardé l'enfant, qu'elle a accompagné l'enfant pendant toute la grossesse, ce que ça lui montre de son amour pour cet être, ce petit être qui était là. Et aussi du côté paternel, c'est aussi aller voir toutes les souffrances de cet homme qui n'a pas su faire autrement pour être aimé que de le faire dans la violence, pour sentir un tout petit peu d'amour que de le faire dans la violence. C'est vraiment regarder son enfant intérieur qui doit lui-même être en grande souffrance pour en arriver à un tel acte.
Ouais.
Donc, c'est vraiment voilà, montrer ça à cet enfant et regarder au niveau du plan des âmes, voilà, qu'est-ce qui s'est passé. Donc ça, c'est quelque chose qui est davantage en séance.
Voilà, peut-être rappeler travailler de telles blessures et de tels morceaux de vie, il est peut-être recommandé de se faire accompagner quand même.
Oui,
et il y a beaucoup de prises de conscience qui sont partagées dans le chat. C'est formidable et travailler avec ces pistes, commencer déjà. Enfin, c'est déjà commencé.
Il y a une question là à laquelle je voudrais répondre.
Oui, et ce sera la dernière parce qu'il faut qu'on prépare la salle.
Donc, c'est avec l'EFT, est-il possible de contacter ce jumeau afin qu'il nous guide dans notre vie? Enceinte, je parlais beaucoup à mon fils pour lui expliquer ce que je vivais sur le plan émotionnel. Donc, c'est par rapport au fait de contacter ce jumeau. Donc, en séance, on le contacte, ce jumeau. On le contacte pour aller vérifier, justement, est-ce qu'il nous a vraiment abandonnés ou pas. Est-ce qu'il est heureux que nous, on soit dans cette souffrance de séparation? Est-ce qu'il il a quelque chose à nous transmettre? Est-ce que ça l'aide, lui, sur son chemin d'évolution, de sentir nos souffrances? Et souvent, lui, ça le retient pour s'il voit que son jumeau, cette autre âme est là et est en souffrance. Donc, il peut y avoir, mais brièvement, c'est pas tout un travail, c'est pas un truc lourd, c'est vraiment retrouver cette connexion avec la conscience de cet être, retrouver cette connexion du regard et de sentir intérieurement par notre intuition si il est heureux que nous soyons toujours dans cette souffrance et cette croyance de séparation. Donc il y a toujours pour beaucoup de personnes, notamment une personne qui a perdu du poids, qui mangeait pour deux, qui comprenait pas pourquoi. Et lorsque ce jumeau s'est vraiment libéré d'elle, cette âme a pu s'élever et partir, elle a perdu 30 kilos en 5 mois. Enfin, ça a été quelque chose d'incroyable.
De subit.
Oui.
Il y a Perle qui nous dit comment avoir une réponse aux questions qui ont été posées pour lesquelles on n'a pas eu le temps de répondre. Vous allez nous laisser juste un peu de temps pour déménager de salle, aller rejoindre la salle de Louis Gervais et dans, on va dire, demi-heure peut-être,
oui,
vous revenez sur cette même page et là, vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez à Emmanuel qui viendra y répondre quand elle aura un peu de temps.
Toute la nuit et toute la journée demain. C'est ce qu'on avait dit à Manuela.
Oui, oui, tout à fait.
Vous attendez juste que...
En tout cas, elle en aura connaissance et elle répondra comme elle pourra.
Exactement. Vous attendez que on change la configuration de cette page et vous revenez dans cette même page, conférence, vous choisissez la salle de Emmanuel Lorido et vous reviendrez à ce même endroit et ça aura changé d'aspect, vous pourrez laisser tout un tas de questions à Emmanuel et cette page restera de toute façon ouverte un très long moment.
Voilà.
Plusieurs mois.
Le sujet,
pour,
le sujet est ouvert.
Pour les commentaires, oui.
Pour les commentaires.
Oui, oui, oui. Mais écoutez, je vous remercie infiniment de m'avoir donné l'occasion de parler de ce thème de la gémellité qui m'est très cher et qui touche, donc on en a encore la confirmation, beaucoup, beaucoup de personnes. Voilà, donc merci à toutes les deux.
Merci à toi, parce que c'est un sujet, c'est pas la première fois que j'en entends parler, mais c'est la première fois que j'en entends parler avec autant de détails.
C'est passionnant et important.
Je vais aller voir ce site de Claude Hennebert et faire ce que j'ai à faire.
Oui, elle a écrit un livre, Un seul être vous manque, peut-être avez-vous eu un jumeau, et voilà, il y a aussi d'autres livres aussi sur la gémellité.
Merci, merci infiniment.
Merci Emmanuel.
Merci à vous, merci à toute l'équipe. Je voudrais dire merci à Louise Gervais qui vient maintenant après moi, qui m'a initiée à l'EFT il y a plusieurs années. Merci Louise, je t'embrasse.
Et bien, tout le monde revenez à 21h pour le rendez-vous avec
ça,
Louise.
On change de salle.
Et vous devez changer de page pour ça d'ailleurs.
On va changer de page et rejoindre
dans la page de Louise.
L'autre côté, on laisse le chat quelques minutes encore. Merci,
merci Emmanuel.
Merci à vous, merci à tous, merci aux auditeurs. À bientôt. Merci.